le magazine des Nations Unies.
La rentrée scolaire 2016-2017, c'est dans trois petites semaines. Comme l'année dernière, l'UNICEF totalement impliqué dans la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans. Le magazine UN vous propose dans cette édition un reportage sur le lancement de cette campagne à Kinshasa. Environ 6 millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire aiguë en République démocratique du Congo. Résultat des analyses effectuées sur le premier semestre de 2016 par le PAM et la FAO. Vous suivrez également un expert du PAM à ce sujet. Enfin, la MONUSCO en appui au comité de pacification de la localité de Mbayo dans le Tanganyika, dans le cadre d'un projet à impact visible de sa section des affaires civiles. Voilà tout pour le sommaire de votre émission de ce dimanche.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le magazine des Nations Unies. Lancement jeudi dernier de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans vivant en dehors de l'école. La cérémonie s'est déroulée à l'école primaire d'application 1 et 2 dans la commune de Limété. Objectif, sensibiliser les parents à faire inscrire à l'homme de cette année scolaire 2016-2017 2 millions d'enfants qui vivent en dehors de l'école en RDC. Jean-Pierre Lali Coco a assisté à l'événement. Suivez son reportage.
Jeudi 11 août 2016, il est 10h. L'ambiance est festive et elle est animée par la fanfare kimbanguiste. Des élèves et des écoliers de l'école primaire d'application 1 et 2 de l'UMETE font partie de la fête. Habillés en t-shirt offert par l'UNICEF, ils occupent les stands installés pour la circonstance et dans la cour de l'école. En face, les officiels, le ministre de l'EPSP, Makermo, entouré de ses collaborateurs, de Mme Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'éducation et des responsables de la province éducationnelle de Kinshasa. Voilà pour le décor. Makermo Mwangu fixe l'objectif de la campagne.
La campagne d'inscription pour l'année scolaire 2016-2017 vise le même objectif que celui de l'année passée. Amener les parents à inscrire tous les enfants de 6 à 7 ans en première année primaire. Il vise à inscrire au moins 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans en première année primaire en bénéficiant de la mise en œuvre progressive de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques.
Madame Thérèse Olenga, elle, est consciente de l'importance de l'éducation et de la formation des enfants. Madame Sylvie Fouet, représentante adjointe de l'UNICEF, met en exergue l'impact positif d'un programme pilote charnière entre la maternelle et le primaire, mené sous le leadership du ministre Makermo Mwangu. Il s'agit d'une classe pré-primaire qui permettrait l'inscription, selon elle, de plus de 35 000 enfants, dont le plus vulnérable.
La RDC a considéré l'impact positif d'une classe pré-primaire sur l'accès des jeunes enfants à un enseignement avant le primaire comme une alternative crédible au développement d'un système d'encadrement, ce qu'on appelle de la petite enfance étalée sur 3 ans. Ce pilote programme, avec l'appui des partenaires et dont l'UNICEF, en cours de l'année passée, devrait permettre l'inscription à temps de plus de 35 000 enfants issus parfois de milieux défavorisés.
Les porte-paroles de la Confédération des associations des comités des parents du Congo, Jean-Marie Bampessa, tacle le gouvernement sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire.
En conséquence, les parents réclament d'une seule voix l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi, justice sera faite pour tous les enfants de notre pays.
Notons enfin que selon l'UNICEF, la RDC vient de bénéficier d'un financement de 100 millions de dollars du partenariat mondial de l'éducation, de quoi appuyer les efforts de la campagne.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le PAM et la FAO ont rendu public les résultats du 14e cycle du cadre intégré de classification, ce qu'on appelle IPC. La cérémonie a eu lieu jeudi dernier à Kinshasa, en présence du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Monsieur Sib Olo, en charge d'études de vulnérabilité au programme alimentaire mondial PAM, a répondu aux questions du magazine des Nations Unies en rapport avec ce cycle. Suivez-le dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Sib Olo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
les femmes et les femmes viennent devant le résultat du 14e cycle du cadre décret de classification initiative. D'abord, c'est quoi le cadre décret de classification?
Alors, le cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire aiguë, qu'on appelle l'ITC, comme on le dit, c'est un cadre dans lequel plusieurs acteurs se retrouvent sous le leadership de la FAO et du PAM et du gouvernement pour répondre à un certain nombre de questions clés sur la situation alimentaire des gens. La première question, quelle est l'intensité ou la sévérité de l'insécurité alimentaire dans le pays? Deuxième question, il y a combien de personnes qui sont touchées par cette insécurité alimentaire? Où est-ce que ces personnes vivent et quelles sont les causes fondamentales qui font que ces personnes sont en insécurité alimentaire? Donc l'IPC se résume à cette analyse pour répondre à ces questions.
Les résultats de ce 14e cycle sont analysés sous 5 phases. Alors comment se présentent certaines de ces phases en commençant par la phase minimale?
Alors, la phase minimale, ça veut dire en gros que tout va bien chez ces ménages-là. Donc c'est pour ça que souvent la phase minimale est représentée par une couleur verte pour dire que la situation est plutôt acceptable pour ces ménages qui y vivent dans cette zone. En la phase 2, on appelle ça la phase de sous-pression. Ça veut dire que c'est des ménages qui sont soumis à des chocs. Mais d'un autre point de vue, ces chocs sont tels que ces ménages-là peuvent, avec très peu d'assistance extérieure, faire face. Cependant, quand on passe à la phase 3, qui est la phase de crise, ça veut dire que c'est des ménages dont les principaux moyens d'existence ont été affectés par le choc. Et que donc, c'est ces ménages-là, tout seuls, ne peuvent pas faire face à leurs besoins sans l'appui extérieur, sans une assistance humanitaire extérieure. Et ceux qui sont en phase 4, c'est vraiment la phase d'urgence, donc ça veut dire là on est sur vraiment des questions de vie ou de mort. Et quand on la passe à la phase 5, ça veut dire c'est la famine, donc c'est la mort. Voilà.
Alors, quelle région correspond à la première phase, à la phase minimale?
Bon, quand vous regardez la carte des territoires, vous voyez que presque, je dirais, les territoires qui sont une partie de la frontière avec l'Angola, on a aussi des territoires qu'on peut trouver dans le Bas-Congo, enfin, qui sont des territoires en phase minimale. On a aussi des territoires tout du Mandundu qui sont dans la phase minimale. Donc, il y a des zones dans ce pays où la situation alimentaire des ménages est relativement acceptable.
Dans l'ensemble, quelles sont les grandes conclusions, les grands enjeux de cette analyse?
L'analyse, nous, on faut se focaliser sur les 5,9 environ millions, donc environ 6 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. L'analyse nous montre que par rapport à juin 2012, il y a une légère baisse du nombre de personnes en insécurité alimentaire, à peu près 9-10%, mais on est quand même sur un chiffre important de 6 millions, et pour ces 6 millions de personnes, on recommande que les acteurs humanitaires, avec sous le leadership du gouvernement, leur apportent l'assistance humanitaire nécessaire pour faire face à leurs besoins.
Alors, quelles sont les recommandations particulières au gouvernement par rapport à cette situation?
On l'a déjà évoqué lors des différents discours qui ont eu lieu. La première recommandation, c'est que dans l'immédiat, on a 6 millions de personnes qui ont besoin d'avoir accès à l'alimentation, avoir accès aux moyens d'existence, aux outils, à des semences, qui ont besoin d'accès aux services sociaux de base. Donc la première recommandation, c'est que les actions soient entreprises pour faciliter l'accès à ces services sociaux de base, à l'alimentation et aux moyens d'existence de ces personnes. La deuxième recommandation qu'on a formulée au cours des différentes présentations, c'est que le pays puisse se doter d'un système national d'information sur la sécurité alimentaire et l'alerte précoce qui va permettre d'anticiper les crises alimentaires dans le pays.
Donc, quelles recommandations?
La grande recommandation, c'est celle-là. Mais en plus de ça, comme on l'a dit, il faut soutenir les statistiques en matière agricole et en matière de sécurité alimentaire, parce que sans statistiques, on ne peut pas faire ce type d'analyse. Et l'autre recommandation qui est importante, c'est le fonctionnement de ce qu'on appelait le cluster sécurité alimentaire sur lequel cette activité est faite, c'est de renforcer son fonctionnement.
Ce 14e cycle, pour quelle période dans le temps?
C'est 6 mois, donc ça veut dire qu'on l'a sorti en juin, donc il faut compter janvier 2017. Donc l'analyse actuelle va couvrir la période juin 2016, janvier 2017.
Merci.
Merci.
Ouvrons ouvrons cette page de nouvelles par le volet santé. 500 000 dollars américains, c'est en fait le financement que le Japon a mis à la disposition de l'Organisation internationale des migrations, OIM, pour permettre à cette agence onusienne d'intensifier ses efforts visant à contenir l'épidémie de la fièvre jaune en République démocratique du Congo. Information livrée mercredi dernier à Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Avec ce montant, l'OIM devra entre autres évaluer la capacité des acteurs étatiques à dépister les voyageurs au point d'entrée clé. Autre nouvelle du même volet, à Mbujima et dans la province du Kasaï oriental, 500 éléments de la police nationale congolaise, PNC, ont été sensibilisés à la lutte contre la discrimination au VIH-SIDA. Cela grâce au partenariat avec l'ONU SIDA. Les bénéficiaires de cette campagne de sensibilisation organisée le 5 août dernier sont des policiers basés à Lukelenga dans un site de formation de la PNC qui est situé à 13 km de Mbujimayi. Par ailleurs, 437 de ces policiers sont passés au dépistage volontaire pour connaître leur statut sérologique. Et puis près de 70 000 déplacés ont regagné leur milieu d'origine entre 2014 et juin 2016 dans le territoire dit du Triangle de la Mort. Vous avez Manono, Mitwaba et Kweto. Information continue dans la dernière note d'information humanitaire de Ocha du 4 au 11 août 2016. La plupart des retournés, signale la source, avaient fui deux ans plus tôt les attaques des Maïma et Bakata Katanga et les affrontements qui avaient opposé ces derniers au FARDC. Enfin, revenons à Kinshasa où 80 experts, expertes, professeurs, chefs et chefs des travaux, assistantes et assistants issus des universités et instituts supérieurs de la RDC ont pris part à un atelier sur l'intégration du genre dans les sciences sociales et humaines enseignées au pays. Un atelier de 3 jours du 10 au 12 août organisé avec l'appui du CNUD par le Réseau universitaire des chercheurs sur le genre RUCG.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous le disions au titre, la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire a été lancée jeudi dernier à Kinshasa. Cette campagne vise à ramener au banc de l'école 2 millions d'enfants au seuil de l'année scolaire 2016-2017. Alors, quelles stratégies et méthodes adopter? La problématique de prise en charge et avec quels acteurs? Madame Erina Dia, chef de la section éducation à l'UNICEF, et Jean-Pierre Elali Coco évoquent toutes ces questions dans cet entretien que je vous propose.
Madame Erina Dia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la section éducation à l'UNICEF. Je vous avais reçu l'année passée dans ce même studio. Donc aujourd'hui, au début du lancement de la campagne d'inscription des enfants des 6 à 7 ans, l'année passée, cette même campagne a été organisée pour 2 millions d'enfants vivant en dehors de l'école. Alors madame, une année après, est-ce que la situation a évolué? Je voudrais parler plutôt du bilan de l'année passée.
Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au-delà déjà des 2 millions d'enfants qui ont été inscrits suite à la campagne, nous avons aussi pu récupérer à peu près un demi-million d'enfants, donc 500 000 enfants, dans le cadre de la campagne porte-à-porte. Mmh. Donc ces enfants étaient identifiés en allant dans les ménages pour voir ceux qui n'avaient pas été inscrits 2 semaines après le démarrage de la rentrée scolaire. Mmh. En termes de résultats, on peut aussi dire qu'on a remarqué que cette campagne portait des fruits en ce sens qu'il y a eu une augmentation d'à peu près 10% du taux d'inscription au cours de ces 3 dernières années. Donc, il y a de fortes raisons de penser que la campagne permet en fait d'accroître le nombre d'enfants qui arrivent à l'école à temps.
Oui, un demi-million, un effort qui a été fait, on pouvait faire plus. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés?
Non, c'est sûr qu'on pourrait faire plus. Il y a des cas où les enfants identifiés ne sont pas forcément inscrits à l'école pour différentes raisons, notamment les questions, la situation économique des parents. Mmh. Et dans ces cas, si le système n'est pas en mesure de prendre en charge ces enfants ou si les écoles ne sont pas en mesure d'assurer, enfin de leur permettre d'être scolarisés sans que les parents payent les frais de scolarité, bien sûr, c'est difficile en fait de récupérer ces enfants. Donc effectivement, on peut faire plus, mais ça veut dire qu'il faut mettre les moyens, il faut mettre en place un paquet qui permettra de répondre à tous les types de goulets d'étranglement qui ont été identifiés et qui empêchent la scolarisation des enfants.
Et revenons maintenant à la campagne que vous allez lancer ce jeudi. Quels sont les objectifs pour cette nouvelle campagne?
Les objectifs pour la campagne restent les mêmes. C'est faire en sorte que les enfants aillent à l'école à temps, donc à l'âge légal. Donc nous ciblons, comme l'année dernière, à peu près 2 millions d'enfants de 6-7 ans, en sachant que si on tient compte de l'accroissement de 10% par an, nous espérons atteindre un peu plus cette année, donc à peu près 2,2 millions.
Vous visez 2 millions d'enfants, madame, c'est quand même beaucoup. Et est-ce qu'il y a une stratégie pour arriver à avoir beaucoup plus d'enfants cette année? Est-ce que l'UNICEF et ses partenaires dans le gouvernement ont mis en place des stratégies pour arriver quand même à avoir davantage d'enfants à l'école primaire cette année?
Oui, disons que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'améliorer un peu les outils qu'on avait dans les années précédentes. Il nous semble important de s'assurer que ce soit le même message qui soit passé aux parents, qui insiste sur l'importance de scolariser tous les enfants, donc filles comme garçons, et surtout de les scolariser dès qu'ils sont en mesure d'aller à l'école, donc 6-7 ans. Parce qu'une fois qu'on rate cette marge d'opportunité, les enfants sont inscrits trop tard, et cela augmente les chances qu'ils abandonnent précocement ou qu'il redouble. Voilà. Maintenant, par rapport à l'expérience de l'année passée, il aussi a paru important de partager en fait les résultats de ces campagnes, donc de collecter les données qu'il faut et les partager afin qu'on puisse démontrer l'impact de la campagne et voir dans quelle mesure l'améliorer et dans quelle mesure cet outil peut nous permettre d'atteindre un plus grand nombre d'enfants.
Et vous allez maintenir l'approche porte-à-porte?
Bien sûr. L'approche porte-à-porte vient en complément en fait de la campagne d'inscription, puisque la campagne d'inscription consiste principalement à informer les parents, les sensibiliser, leur rappeler qu'il est temps en fait de lancer cette démarche d'inscription des enfants à l'école. Mais la campagne porte-à-porte sert à aller récupérer ces enfants en fait que les parents a priori n'avait pas l'intention de scolariser. C'est vraiment important.
Ok. Madame, vous avez dit tout à l'heure que 2 millions d'enfants sont vraiment à aller chercher dans leur maison pour qu'ils rentrent à l'école. Et c'est quand même un travail important, colossal. Est-ce qu'on peut savoir les facteurs qui militent pour que les enfants vivent comme ça en dehors de l'école?
Oui, d'abord, en fait, il faut dire que ce n'est pas les 2 millions d'enfants qu'on va chercher. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants que les parents scolarisent. Arrive spontanément.
Oui.
Hein, spontanément. Donc l'objectif de la campagne, c'est vraiment leur rappeler. Il est temps de le faire. Allez-y. N'attendez pas 2-3 ans. Ne repoussez pas ce processus. Quelles que soient les raisons, il y a des moyens, des solutions qu'on pourrait trouver.
Et les facteurs?
C'est à différents niveaux. Au niveau de l'offre éducative, il y a l'insuffisance d'infrastructures scolaires ou alors leur détérioration. Il y a les questions d'insécurité qui fait que les parents ne sont pas forcément disposés à envoyer leurs enfants
et
à
là,
l'école.
Là, c'est notamment à l'est de la RDC.
Voilà, à l'est de la RDC ou certaines poches dans le sud du pays.
Et voilà, mais nous parlons un peu de cette campagne. Elle commence ce jeudi. Et quels sont les dispositifs que l'UNICEF et même le gouvernement ont pris pour essayer de réussir cette campagne?
Les dispositifs, c'est d'abord de lancer la campagne officiellement et puis au-delà de toute cette communication qui est faite, aider aussi les parents, inciter les parents à scolariser leurs enfants en réduisant tant soit peu la charge, le coût que cette scolarisation implique. Et c'est pour ça qu'en plus de la campagne de sensibilisation, il y a une distribution de kits scolaires à environ 1,4 million d'enfants. Et puis pour certains enfants identifiés comme vraiment vulnérables, il y a d'autres activités qui sont faites en aval pour s'assurer qu'ils viennent mais aussi qu'ils restent à l'école.
L'année passée, vous avez réussi à faire inscrire 1,5 million d'enfants, donc 500 000 enfants à l'école primaire. Et cette année, l'ambition, c'est quoi? D'avoir combien d'enfants, à peu près?
Disons qu'on va essayer de rester sur les 500 000 plus 10%, donc 550 000, en espérant pouvoir atteindre plus. Mais cela dépendra aussi, bien sûr, des moyens qui seront à notre disposition. Mais l'idéal, c'est de rester au moins à ce 500 000 que nous avons réussi à atteindre l'année dernière.
Et madame, pour terminer, un message, peut-être un slogan en lingala, la langue locale ici à Kinshasa, et je crois que c'est une langue qui est parlée aussi à l'intérieur du pays, pour les parents et pour les autorités, même les enfants qui sont les premiers concernés, à ces jours du lancement de cette campagne qui coïncide avec la rentrée scolaire 2016 et 2017.
D'accord, l'espoir fait vivre, donc je vais me lancer en lingala en espérant que l'audience me comprendra.
Oui.
Alors, baboti, boko misa bana, nyoso nakelase.
Voilà.
C'est bon, vous avez compris?
Oui, on a compris, c'est que vous appelez les parents à faire inscrire davantage des enfants à l'école.
Voilà, et j'invite aussi les enfants à rappeler à leurs parents que c'est un droit et à les inciter à les emmener.
Madame Irina Dia, nous vous remercions d'être venue dans ce studio.
C'est moi, bonne journée.
Au Tanganyika, une forte délégation mixte, MONUSCO, gouvernement provincial et agence des Nations Unies, était jeudi dernier à Mbayo. Mbayo est une localité située à 112 km au nord-est de Manono Centre. Objectif donc de la mission, remettre des vélos aux membres de 5 comités de pacification, appelés Baraza, dans le cadre d'un projet à impact visible de la section des affaires civiles de la MONUSCO. Les détails, c'est avec Amoury Aleka.
Ces vélos au nombre de 70 doivent faciliter la mobilité de membres des 5 comités de pacification installés à Kabeke, Mbayo, Mukebo, Sang et Senganjimbu. La société civile de Manono, qui coordonne ce processus de pacification entre le Pygmée et le Luba, se félicite des efforts déjà entrepris. Abbé Moïse Kilouba.
Nous venons de distribuer aujourd'hui 70 vélos aux 70 membres de ces 5 barazas, pouvant les permettre à franchir de longues distances, et puisqu'à un certain moment, ils faisaient la sensibilisation à pied.
Pour le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité des centralisation et affaires coutumières, la paix et des retours dans la zone, et les communautés ont accepté de cohabiter pacifiquement. Dieudonné Yumba.
La paix est déjà là, les vélos on les a donnés pour leur faciliter les moyens de transport, mais le calme est déjà là, il y a l'entente entre les deux communautés.
Pour le chef des bureaux de la MONUSCO Tanganyika, la mission est bien disposée à apporter son soutien au gouvernement provincial dans la stabilisation de la zone. Jacob Mukeni.
Nous allons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour sensibiliser ces communautés en conflit. L'entente entre communautés doit régner.
La cérémonie des remises des vélos au 5 Kabaraza intervient dans le cadre du projet Impact Rapide financé par la MONUSCO à hauteur de $24,000 américains. Kalemi Amoury Aleka, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous vous proposons à présent la réaction de la MONUSCO à la décision de la DGM de ne pas renouveler le visa de Ida Sawyer de Human Rights Watch. La question est posée par notre consoeur Elvira Panzou de la RTV Louange. Suivez.
Merci, c'est Elvira Panzou pour les comptes de la radio-télévision à Louange. Je voulais juste avoir la réaction de la MONUSCO par rapport au refus du visa à Madame Ida Sawyer de Human Rights Watch.
Oui, c'est vrai. Nous aussi, on a appris que Madame Ida Sawyer n'a pas pu renouveler son visa. Nous la connaissons bien. C'est une personne qui travaille ici depuis janvier 2008. C'est une personne talentueuse et professionnelle. Nous espérons que dans les prochains jours, cette décision sera révisée et qu'elle pourra, si la situation le permet, elle pourra revenir en RDC et continuer le travail qu'elle fait ici.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je suis Madame Muleka Mulumba Mireille, célibataire. Et je suis licenciée en droit de l'Université protestante au Congo, de la promotion 2003. Actuellement, je travaille au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, en tant qu'associée aux droits de l'homme, depuis 2009. Mon travail au sein du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, je suis en fait membre de l'unité réforme et renforcement institutionnel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce que je fais particulièrement au sein de mon unité, je suis chargée d'abord du partenariat avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme, mais aussi du suivi des lois en rapport avec les droits de l'homme au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et aussi je suis en charge de la formation des agents de la PNC et des FRDC en droits de l'homme. On a eu à faire beaucoup de formations avec les FRDC récemment d'ailleurs au centre d'instruction de Kitona, de Moura, de Kamina, toujours dans le cadre de la sensibilisation en droit de l'homme des agents de l'État. S'il y a autre chose à dire, après l'université protestante au Congo, où j'ai eu mon diplôme de licence en droit, j'ai travaillé de 2004 à 2009 au sein d'un cabinet d'avocats, le cabinet du bâtonnier Mukendi wa Mulumba, où j'ai vraiment en tant qu'avocate, et c'est du cabinet du bataillon Kenya Mumba que je suis venue directement en 2009 au sein du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme où je continue à travailler dans le domaine de droit mais plus spécifiquement dans les droits de l'homme. Pour parler de mon temps libre, je profite en tout cas de mon temps libre pour passer un peu de temps avec la famille parce que bon, avec le travail on n'a pas toujours le temps de passer du temps en famille. Et aussi, je passe mon temps à faire un peu de lecture, comme j'aime beaucoup lire. En ce qui concerne les préférences musicales, ben, j'aime beaucoup la musique française. J'aime la rumba congolaise, je suis congolaise, donc je reconnais avant tout les mérites de la musique congolaise. Et bon, les loisirs, comme sport, j'aime beaucoup faire du vélo. Je fais du vélo tous les week-ends. Bon, mes préférences culinaires, j'aime manger la cuisine congolaise. Le foufou, le pondou, makayabou, donc tout ce qui est cuisine congolaise. Bon, en ce qui concerne les projets d'avenir, le fait que j'ai travaillé déjà depuis plus de 7 ans dans le domaine des droits de l'homme m'a donné un peu envie de travailler pour la cause des personnes qui ont besoin d'être défendues, les personnes les plus défavorisées, les personnes qui ont besoin d'une assistance, ceux qui sont laissés pour compte. Et donc, je me vois bien dans un avenir proche travailler pour cette cause-là. Pourquoi pas, par exemple, en tant que représentant du peuple au Parlement, pour défendre la cause des personnes qui ne peuvent pas parler et parler pour eux. Ou bien, tout simplement, peut-être conseillère dans un cabinet d'un ministre ou d'un gouverneur pour apporter là où je peux, ne fût-ce qu'un petit changement, parce que nous avons tous une pierre à apporter au changement dans notre pays.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Un rendez-vous à noter dans vos agendas cette semaine, le 19 août, ce sera la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et c'est ainsi que nous terminons notre magazine des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Merci à Noël Mokondo qui l'a mise en onde. À la coordination et au reportage, Jean-Pierre Elalikoko et Honoré Missinga. Martin Sebujangwe a supervisé ce magazine que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On se dit à très bientôt sur les antennes de la Radio Kapi. En tout cas, si vous voulez le retrouver, vous n'avez qu'à aller sur notre site internet. Et on se retrouve le dimanche prochain. À bientôt.